France Musique. Les grands entretiens. France Musique. Émilie Munera.
Je suis Juliette Hurel. Je suis née le 14 mai 1970 à Auxerre et j'ai le bonheur d'être flûtiste.
Bonjour Juliette Hurel.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes d'autant plus contente d'être ici que vous êtes une fan des grands entretiens. Vous les écoutez beaucoup.
Je suis Rotterdam. Une fan des grands entretiens que j'écoute en replay, comme on dit, je crois. Et j'aime vraiment beaucoup cette émission et je trouve qu'elle est très inspirante et d'entendre des grands artistes, grands musiciens parler de leur vie et de leur... de tout ce qu'ils ont vécu est ouais, extrêmement inspirant et j'étais très honorée que vous pensiez à m'inviter, voilà.
Et ben nous le sommes autant que vous et on vous remercie d'être venu aujourd'hui à Paris. Nous sommes dans les studios de la Maison de la Radio à cause évidemment des conditions sanitaires puisque d'habitude nous allons dans un lieu que vous avez choisi, ce n'est pas le cas. Et on est d'autant plus heureux que vous avez pu venir puisque vous êtes aujourd'hui à Rotterdam, vous avez pu venir à Paris. Vous avez également un pied à terre à Paris mais votre vie n'a pas commencé à Paris, Juliette Hurel.
Donc ma vie a commencé à Auxerre. Pas pour très longtemps, en fait c'était mon papa qui travaillait là-bas et ensuite il a été donc muté en région parisienne. Et donc à l'âge de 2 ans, je suis arrivée à Montgeron, dans l'Essonne.
Et votre maman, votre papa, donc votre papa n'était pas dans le milieu musical mais votre maman l'était?
Un peu, oui, oui, on peut dire complètement même. Mon père en fait était ingénieur agronome, mais fervent fanatique de jazz. Et ce qui fait que j'ai été élevée dans un univers où il y avait du jazz tout le temps à la maison et des musiciens de jazz qui venaient. C'était vraiment très spécial. Et ma maman, elle, grande amatrice de musique classique, et donc elle a été professeure en collège de musique. Mais elle a surtout après travaillé sur tout ce qui est de la musique pour la petite enfance. Et donc j'ai fait de l'éveil musical avec ma maman, à la maison, chez nous. Elle avait découvert la méthode Martenot. Donc, c'est vraiment les méthodes actives. Et donc, mes premiers débuts de musique, c'était vraiment le geste, la reconnaissance, faire des rythmes. C'était pas du tout une éducation de solfège classique, comme ça se faisait encore beaucoup à l'époque. Et je crois que oui, effectivement, c'était une grande chance. C'était très vivant, ce mélange de chansons, de jeux, d'expressions corporelles. Et puis mélangé au jazz de papa, tout ça, c'était vraiment bien.
Mais comment se fait-il que votre père, ingénieur agronome, connaisse des musiciens de jazz qui venaient chez vous?
Ah, parce que donc, il était fan, il jouait de la trompette.
Musicien aussi, alors.
Il l'a appris tout seul. Et donc, son dieu, c'était Louis Armstrong. Et tous les étés, nous allions au festival de Nice de jazz, et là, il filmait les musiciens, et puis quand ces musiciens venaient à Paris, en général au Méridien, ils étaient là la semaine, et il allait écouter, on allait écouter, et puis le dimanche, ils étaient libres. Et donc, il leur disait, si vous voulez, je vous invite à la maison. Et il a une collection de disques incroyables, et donc ils venaient, et « Mais Jean-Marie, tu as ce disque, c'est pas possible !» Et donc, ils écoutaient toute la journée, ils regardaient les films. Et puis moi, j'étais là, donc Cat Anderson, le roi de la trompette aiguë, vraiment plein des chanteurs, des chanteuses, des saxophonistes. Hein, c'était chouette.
Donc, ils jouaient aussi avec ces
musiciens.
Du coup,
ils faisaient le bœuf dans le salon.
votre mère. Donc, vous étiez avec d'autres enfants également pour l'apprentissage de la musique.
Oui, mais ça, c'était toute petite. Hein. C'était à 5 ans. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire de la flûte à bec, mais je ne sais pas trop comment. Pourquoi ? Peut-être grâce à cette Matone Martineau. Mais après, je me souviens avoir eu des cours de flûte à bec au conservatoire, à l'école de musique de Montgeron. Et puis, après, à l'âge de 11 ans, ma maman, qui du coup connaissait la prof de flûte de Montgeron, qui s'appelle Christine Lacombe. Et donc, un mois de mai 1981, j'étais dans mon jardin, tranquille. Elle me dit, donc, Juliette, viens voir, il y a Christine qui voudrait, elle a des places dans sa classe, et elle veut faire une expérience de débuter des jeunes flûtistes en fin d'année. Parce que, voilà, ça lui plaît de faire ça. Viens. Moi, je n'étais pas archi emballée, je dois dire, de quitter mon gazon. Mais je la suis. Et là, je me vois très bien. Christine Lacombe m'oppose l'embouchure et elle me fait souffler. Elle me dit, hop, c'est bon, je te prends. Donc là, c'était vraiment formidable. J'ai eu une année avec cette prof qui, pareil, était aussi très éveillée à tout ce qui est jeu. Je me souviens qu'on devait composer des petits morceaux avec l'embouchure. Et donc, moi, je rentrais chez moi et je faisais mes petits dessins, tout ça. D'ailleurs, cette Christine, avec qui je suis toujours très... très liée, que j'ai retrouvée des années plus tard. Elle a tout, elle sait que j'ai raté aucun cours. Elle m'a encore raconté hier au téléphone, elle m'a dit « Alors quand je prenais ma flûte, à chaque fois tu me disais « Christine, s'il te plaît, tu peux rejouer, c'est trop beau le son de la flûte. » Enfin bon, paraît-il que j'étais émerveillée de ce son-là. Et malheureusement, elle est partie au bout d'un an. Donc après, on a su que dans la ville à côté, à hier, il y avait une autre prof qui était arrivée, qui était super, effectivement, Céline Nessy, qui est aujourd'hui prof à Boulogne et à l'Opéra de Paris, flûtiste. Et alors là, le choc, quand je l'ai aussi rencontrée, elle était belle, c'est une femme toute petite, avec des petits cheveux comme ça, et puis sa flûte. Et puis elle me donnait des morceaux tellement beaux. Enfin bon, voilà, c'était la vraie inspiration. Et Céline Nessy qui faisait des récitals avec piano, alors là, sonate de Prokofiev, Schubert, j'étais là... Et puis, je me suis dit, ça me plairait, en fait, de faire ça. Et donc, un jour, j'arrive en cours, toute timide, vers 15, 16 ans, je pense. Je lui dis, en fait, si je voulais te parler, j'ai réfléchi et je voudrais faire comme toi. Elle me dit, bon. Elle me dit, tu sais, c'est très difficile. Et là, surtout la flûte. Parce que dans un orchestre, t'as plein d'instruments, tu t'accordes et t'as pas beaucoup de flûte. Et puis, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, il y a... très haut niveau. Elle me dit, mais je pense que tu peux y arriver. Mais alors, on va mettre les bouchées doubles.
C'est amusant parce qu'on a l'impression que c'est presque la flûte qui vous a choisi. Vous venez nous dire, oh, je ne sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé la flûte à bec. Et puis tout d'un coup, bam, 11 ans, il y a eu la flûte traversière. Vous ne vous souvenez pas de cet instrument ? Ce n'est pas vous qui avez demandé à jouer de cet instrument ?
Zéro. C'est lui qui m'a choisi et je le remercie. Je suis complètement en amour avec la flûte traversière. Je ne me vois pas jouer autre chose. Mais je ne l'ai pas du tout choisi.
Ce n'est pas votre maman qui vous a proposé cet instrument ?
Ah non, mais moi, je n'ai pas du tout été poussée, moi.
Vos parents vous ont
ma
pas
maman,
poussé.
Elle m'a jamais dit va faire ta flûte, jamais. Jamais. Non, puis moi, j'aimais ça, quoi. Et puis, je crois pas que j'étais très, très douée. J'avais des facilités. Et comme je vous ai dit, je pense que j'avais un rapport naturel avec la musique. Et puis, ma mère, elle écoute, mais de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, cet amour que j'ai notamment pour la musique de Debussy et Ravel, c'est elle. Et puis, je suis la petite, moi, de 3. Donc j'ai un frère qui a 3 ans de plus, qui fait de la batterie, un amateur et qui jouait avec mon papa. Et puis j'ai une grande sœur qui est artiste peintre. Oui, non, j'étais pas du tout poussée. Et puis Céline Nessy, les cours étaient très motivants, d'un cours sur l'autre. Mais c'est vrai qu'on allait beaucoup au concert. Mais je me souviens que par exemple que Céline Nessy, quand je l'ai eue, elle était très jeune, elle était encore au CNSM. Donc je me souviens très que ma mère me fait rater l'école. Je crois même qu'elle a dit que j'avais mal au dos ou quoi, pour aller écouter le prix de Céline, rue de Madrid. Des trucs comme ça, quoi. Et puis aussi, ma maman adorait, merci, qui me soumet très bien. C'était pas si facile à l'époque. Va faire un aller-retour de Montgeron au Théâtre des Champs pour acheter un ticket pour aller écouter le Faune et le Sacre du Printemps avec ballet. et qui revient dans la banlieue, chez nous, c'est pas loin, hein, avec les tickets, à l'orchestre et tout, quoi, le truc. Et là, toutes les deux, on part, écoutez ça. Oh, le choc. Le choc. Oh, enfin, et donc, depuis assez tôt, moi, j'ai dit, mon rêve, c'est de jouer dans un gros orchestre.
Ah, vous l'avez su déjà,
ah, c'était l'orchestre, c'était le rêve absolu.
Plutôt de la musique d'ailleurs, donc du 20e siècle,
oh, 19e. Tout à fait. Mm. Ah bah oui.
C'est ce qu'on écoutait aussi chez vous, du coup.
Ah bah oui, ma maman, elle n'aurait jamais mis une Sophonie de Bruckner. Et je n'aimais pas du tout Gustave Mahler, du tout. Horrible. Moi j'aime bien le jouer maintenant, mais je ne vais jamais me mettre un disque d'une Sophonie de Mahler. Les Beethoven, ça je connaissais bien, et je connaissais les Brandebourgeois qu'on écoutait en voiture, tout ça, ça je connaissais bien. Mais c'était surtout Debussy, Ravel et Stravinsky. Mais évidemment, d'autres Russes, je pense, certainement, Mussorgsky, tout ça. Mais par exemple aussi, un disque qu'on écoutait beaucoup, c'était là, quand je faisais de la flûte déjà, la sonate de Franck avec Galway et Argerich, et de l'autre côté, bah, Prokofiev, évidemment. Non mais génial! Et puis pareil, allez écouter, ça c'est tout à fait ma mère, on va écouter Galway qui jouait au théâtre de la ville, et ni une ni deux, on y retourne le lendemain. Parce que, voilà, c'est ce truc très familial, je crois, c'est pas de la boulimie, c'est une énergie, une joie de vivre, on croque, on y va, on profite, voilà. C'est pas boulimique, c'est profiter.
France Musique, les grands entretiens de Julia Turel.
L'enfance est heureuse, est-ce que l'adolescence le sera aussi? Est-ce que le rapport à la flûte est toujours le même? Est-ce que vous avez toujours gardé la même gourmandise, la même envie de travailler?
Je me souviens, les dimanches, je trouvais ça un petit peu dur, le week-end, parce qu'il fallait quand même travailler pour l'école. Plus la flûte, parfois, je trouvais ça un peu dur. Non, c'est devenu dur après. Très dur même. Pas drôle. Parce qu'en fait, j'ai passé ma médaille d'or en 1988 à hier. Jusqu'à présent, tout allait plutôt bien, je pense. Et puis après, Céline Nessy me dit, mais pas du tout clairement que je me présente au CNSM. Pour la confiance, j'ai jamais senti à cette époque-là que vraiment j'allais y arriver, quoi. Et par exemple, moi, j'ai quand même présenté le conservatoire un certain nombre de fois. Et à l'époque, il y avait deux tours. Et je tombais systématiquement malade entre les deux tours. Je passais le premier tour.
Du conservatoire de Paris.
Ouais, et je tombais malade entre les deux tours. Donc, bouton d'herpès, angine, mal de dos...
Combien de temps alors du coup?
Combien de fois? Oui, combien de fois? Trois fois, je crois.
Et que vous disait votre professeur du coup?
Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que l'année où je suis rentrée, elle m'a coincée dans sa cuisine. Elle m'a dit, ça suffit maintenant. Tu as le niveau et ça fait longtemps que tu l'as. Donc maintenant, tu rentres. Et je suis rentrée. Donc premier concours d'orchestre, je suis arrivée en finale, blouf, comme ça. J'ai dit, c'est cool, mais ça veut dire que j'étais prête. Donc pourquoi faire un concours dans un orchestre? C'était deuxième flûte à Strasbourg, je me souviens très bien. J'arrive en finale, je me dis, oh là là, mais j'ai pas du tout envie d'être deuxième flûte à Strasbourg, moi. Donc je peux rentrer, heureusement. Puis après, on fait des concours, et puis on en fait encore et encore, et puis ça peut marcher après, de moins en moins. Et puis, je déteste la concurrence, c'est pas du tout pour moi. Peut-être que j'ai été aussi tellement coucounée dans mon enfance et tout ça, que j'étais pas prête à ça.
On perd ses moyens quelque part aussi?
Je sais pas, c'est mystérieux, hein, tout ça. Mais après, j'ai fait quand même des superbes rencontres, par exemple, Aurèle Nicolet. Je passais le concours en pâle, je ne sais plus quand. Et là, c'est tout à fait, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Je présente le concours en pâle en me disant que de toute façon, je n'irai jamais en finale. Parce que je me disais toujours, non, je n'ai pas le niveau, non, Donc j'y vais pour voir. Donc je fais un premier tour où je balance la patate. Et qui arrive dans la loge derrière, à petits pas, avec sa chevelure blanche, Aurèle Nicolet, que je n'avais jamais rencontrée, mais qui est pour moi mon gourou absolu. Et il me dit, oh, c'était formidable, vous avez une vraie personnalité. Alors là, pour moi, le concours en pâle, rien à foutre. J'avais pour moi le plus beau cadeau qui soit. Et donc après, quelques mois après, je suis allée le voir à Sienne. Et il me dit, ah, je te reconnais, toi. Et donc après, j'ai entendu qu'il faisait des cours privés chez lui, à quelques rares élus. Et donc je dis, est-ce que je pourrais venir prendre un cours? Et bien sûr. Et alors là, c'était des journées, mais... mémorable. Donc il habitait Bâle, donc j'allais en avion, il venait me chercher à l'aéroport. Il m'attendait en jouant aux échecs avec son petit truc électronique là. On arrivait chez lui, on allait dans sa petite chambre là-haut, et puis il me mettait une partoche sur le pupitre. Bon, déchiffre-moi ça. Ok, d'accord. Peut-être qu'après on faisait un petit duo. Après je commençais à jouer mon programme, souvent un programme de concours, un programme. Puis le midi on mangeait, je faisais la vinaigrette, il faisait des petits œufs au plat. Après on écoutait du Bach, et après on mangeait du chocolat. Après on remontait. Puis vers 4 heures de l'après-midi, bon, à quelle heure il est en avion ? Bah, c'est parfait, on a le temps, tu me rejoues tout. Et voilà, et après il me remettait à l'avion, et puis c'était génial.
C'était quelqu'un aussi d'assez curieux, bon vivant, philosophe, on dit aussi souvent, Aurèle Nicolet, c'était une personnalité, vous parlez souvent d'inspiration, alors là, quelqu'un de très inspirant aussi, la façon de mener la carrière aussi peut-être, et puis grand pédagogue.
C'est ça le plus important. Parce que lui, je n'ai jamais senti dans tous les cours qu'il donnait qu'il jugeait la personne. Il ne juge pas, il est là pour elle au moment où elle est là. Il disait toujours « hink et nunk ». Ici et maintenant. Et surtout, il disait, moi, je suis psychologue et garagiste. Psychologue, parce qu'il dit, oui, souvent, les élèves, ils ont des affres, c'est normal, c'est difficile, hein, cette période est horriblement difficile. Et garagiste, parce que je leur donne des trucs. Et ça, c'est vrai qu'il avait vraiment des super trucs à nous donner, trucs techniques. Et puis quand même, sur les œuvres elles-mêmes, une vision passionnante. Non, je lui dois énormément.
Conservatoire, vous avez travaillé avec Pierre-Yves Artaud. Alors là, c'est un grand maître aussi, puis un grand maître de la musique de son temps. Que vous a-t-il apporté ? Quel souvenir avez-vous de Pierre-Yves Artaud ?
J'ai adoré travailler avec Pierre-Yves, que j'ai rencontré quand j'avais, je pense, 18 ans, puisque quand j'ai fini ailleurs, je suis allée donc suivre ses cours au CNR de Boulogne. Mais après, il a été nommé au CNSM. Et donc là, je me souviens très bien, j'avais cours le lundi matin, j'avais très peur. Il a une culture mais immensissime. Mais aussi, pour le son, je me souviens vraiment que j'arrivais parfois, même quand c'était après au CNSM, avec un son correct, mais je ressortais avec un son qui avait 10 fois le volume. Et c'est vraiment quelqu'un qui faisait souffler. Et puis c'est vrai que cette culture de la musique contemporaine, il m'a beaucoup, beaucoup appris aussi. Non, j'ai beaucoup appris avec lui.
Ce sont Aurèle Nicolet et Pierre-Yves Artaud, les deux professeurs qui ont vraiment compté pour vous, les deux images, les deux mentors que vous avez pu avoir.
Faut surtout parler de Céline Nessie, parce que sans elle, j'aurais jamais fait de flûte, c'est sûr. Et puis je trouvais qu'elle jouait divinement, j'adorais ça. Après, oui, Pierre-Yves et Aurèle. Après, j'ai fait quand même un an chez Peter Lucas Graf à Bâle. Hein, ça, c'était des journées, je sais pas si beaucoup de personnes ont mangé autant de trains que moi, mais bon, je le faisais. Donc, j'allais très tôt de Montgeron à Gare de l'Est. Je prenais le train qui prenait beaucoup de temps, 5h30, 6h, je crois, avec mon petit pique-nique. J'arrivais, j'avais une heure de cours, puis je rentrais. N'importe quoi. C'est la folie quand j'y pense. Et donc, ça, c'était très chouette aussi avec lui pendant un an. Là, j'ai appris beaucoup de trucs de beaucoup plus structurés, le rythme, la carrure. Mais c'était intéressant. C'était tout à fait une autre approche de celle que j'avais. Puis, c'est un homme absolument charmant. Et puis, après avoir eu mon prix au CNSM, j'ai fait un an avec Adorian à Cologne aussi. Et Adorian, que j'avais rencontré en masterclass et que j'avais beaucoup. Et là, j'ai aussi beaucoup appris avec lui. Pour les traits d'orchestre, notamment.
C'était dur de quitter sa famille pour aller comme ça à l'étranger, vous qui avez été très coucounée, comme vous nous l'avez dit.
Mais pareil, Cologne, j'ai fait pareil. Je faisais des allers-retours dans la journée. Je n'habitais plus à Montgeron à l'époque. Mais j'aimais beaucoup être à Paris. Non, je vais vous dire, vous savez pourquoi je n'ai pas été habiter à Cologne ? pour une très bonne raison. J'étais en perfectionnement au CNSM en quintette avant, avec un quintette qui s'appelait le Quintette Lutetia, et nous étions avec Maurice Bourg. Et celui-là, il faut en parler, parce que c'est mes deux vrais gourous, je dirais, c'est Bourg et Nicolet. Les deux derniers, quoi, les deux qui m'ont fait rentrer dans le monde professionnel. Et donc, on répétait beaucoup en quintette. Et puis surtout, ce qui était génial, c'est qu'on était le seul ensemble avant en perfectionnement. Et ils nous envoyaient partout. On allait en Asie, on allait au Maroc, on allait en Angleterre. Et surtout, Bourg, ce qu'il m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, tu sais, la meilleure école d'orchestre, c'est le quintette avant. Parce que tu apprends la justesse, tu apprends le mélange des timbres, tu apprends le rythme. Il dit, t'en fais pas. T'auras pas de problème quand tu iras dans un orchestre parce que tu auras fait tellement de quintettes. Et donc voilà. Et en rentrant de Cologne, j'ai décidé de vouloir faire le perfectionnement de flûte. Parce qu'il y avait toujours quand même ces problèmes de confiance. Et je me disais, les gens qui sont en perfectionnement de flûte, enfin, perfectionnement au CNSM, c'était tous instruments confondus, hein. À l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, je crois aussi. Bon, je sais plus, bref. Ces gens-là, je les admire. Donc si moi, je rentre là, c'est que j'ai un niveau. Et mon concours d'entrée, vous savez avec qui j'ai joué? Nicolas Angelich. Sympa, non?
Ouais.
Dans Chant de Linos de Jolivet. Et je suis rentrée. Et là, je dis, bon, c'est bon, là, on va repartir sur de bonnes bases. Et qui j'ai choisi comme prof? Maurice Bourg, qui était donc mon prof de flûte, alors que c'est un oboïste. Mmh. Mais à l'époque, c'était possible. On choisissait qui on voulait. J'aurais pu aller avec un prof de piano ou quoi. Et je lui avais dit, voilà, écoutez-moi, les 2 ans de quintette avec vous, c'était tellement génial que je veux continuer. Est-ce que vous voulez bien me prendre comme élève de flûte en hautbois? Il m'a dit oui, oui, oui. Et c'est là qu'avec ma grande, immense amie adorée Hélène Couvert, on a monté tout le répertoire avec lui.
Elle était avec vous aussi, déjà avec Maurice Bourg.
Voilà. Donc elle venait presque à tous les cours et c'est avec elle qu'on a, oui, monté tout ce répertoire. Mais je nous vois, enfin vraiment, j'ai des images tellement précises. Il s'assied toujours à côté d'elle, il tournait les pages. Et par exemple, notamment la sonate de Poulenc, à chaque fois que je la joue, il y a des endroits, je l'entends me dire, et notamment à la fin du premier mouvement, du deuxième mouvement, pardon, la cantilène, je chante très mal, mais ça fait... Ce petit intervalle spécial qui est différent du début. Il me dit, là, tu vois, c'est tellement spécial. Tu dois jouer comme si c'était la dernière fois de ta vie que tu le jouais. Alors, à chaque fois, j'y pense. À chaque fois. Non, mais Maurice Bourg, merci. Je me suis présentée plusieurs fois, 2 fois, je crois, à l'Opéra de Lyon. À l'époque, c'était Kent Nagano, le chef. Et puis, il faisait des concours, mais il prenait personne. Donc, j'arrive en finale. Mon frère adoré habite Lyon. Donc, je me disais, j'adorerais avoir ce poste. Donc, j'arrive en finale. Et là, Kent Nagano, merci, au revoir, on prend personne. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends le concours d'après avec impatience. Mais il tombe 3 jours avant le concours de Rotterdam. Là, je vais voir Bourg, je lui dis, écoutez, je suis embêtée parce qu'il y a le concours à l'Opéra de Lyon et 3 jours après, il y a Rotterdam. Dis, tu sais, tu t'inscris aux deux. Tu rentres à Lyon, très bien. Tu rentres pas à Lyon, tu files à Rotterdam. Mais tu veux que je te dise, je pense que Rotterdam t'irait mieux. Parce que c'est un orchestre philharmonique. Je te vois mieux dans un orchestre philharmonique que dans un orchestre d'opéra. Je pense que ça irait mieux pour ta personnalité. Merci, Maurice.
Le hautbois de Maurice Bourg, qui fut le professeur de musique de chambre au Conservatoire de Paris de Juliette Hurel. Il est accompagné par le trio à cordes français pour ce quatuor Köchel 370 de Mozart. Demain, Juliette Hurel nous emmène chez elle à Rotterdam. Nous parlerons de l'orchestre de la ville et des grands chefs qui le dirigent. Merci à Lucas Derode, Gilles Blanchard, Marie Lepeintre et Flora Sternadel. Retrouvez la programmation et l'intégralité de ces grands entretiens sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.